pour vous dire que ce qui vous attend, c'est, ça peut être à la fois quelque chose de, ça va être quelque chose de très dur, mais de très beau si vous le réussissez. La seule façon de le réussir, c'est que en fait vous êtes rentré en guerre aujourd'hui. C'est pas simplement une lutte, c'est la guerre. Ils vont essayer de vous faire croire que vous coûtez trop cher. On vous explique que si vous êtes dehors, c'est à cause du coût du travail. Quelle belle blague! Depuis quand les ouvriers coûtent de l'argent au patron?
Protéger le climat et pas le capital! Protéger le climat et pas le capital! Protéger le climat et pas le capital! Protéger le climat et pas le capital!
Le problème, c'est que on a une politique qui est décalée sur ce qu'est la société réelle, quoi. Et, enfin, la société de la rue, la société du quartier, la société de la ville. Ouais, c'est sûr, j'ai fait passer des gens, mais moi, je m'en fous leur loi. Enfin, c'est pas que je m'en fous leur loi, c'est que je vais pas demander les papiers aux gens de savoir s'ils ont leurs papiers, ils ont pas leurs papiers. Si la loi, elle, c'est ça, ben, il faut changer les lois, puis c'est tout, quoi.
Allez, bonsoir, c'est les Régors. Chaque semaine, c'est l'école des Garrigues à Montpellier, Canal Sud à Toulouse, à Local à Saint-Giron. Et bien évidemment, Radio Primitive sur Reims, où cette émission est réalisée. Les Régors, une parole anarchiste communiste. Bonsoir, et eh bien, comme on vous l'avait dit, je pense, la semaine dernière, on fait un deuxième petit tour de France, entre guillemets, de la lutte, de la résistance qui est actuellement en France contre le projet Macron. On va donc écouter quelqu'un de Nantes. Ensuite, on a la surprise, parce que c'était pas prévu au départ, d'avoir quatre ou cinq personnes qui nous ont fait, qui nous ont communiqué un enregistrement à Mantes-la-Jolie. Et ensuite, on terminera par Saint-Nazaire. Je crois que Jean-Mi, avant qu'on ait quelqu'un de Nantes, ça serait bien que tu nous dises les prochains rendez-vous sur Reims, ce qui s'y passe un peu.
Alors, ben évidemment, demain matin, il y aura la grosse manifestation à 10h, départ boulevard de la Paix, avec peut-être cette fois-ci, attendez-vous, à du nouveau, une innovation énorme au niveau du parcours.
C'est
puisque,
vrai.
Oui. Et oui, les manifestations rémoises, on peut les faire désormais les yeux fermés, hein, puisque au niveau de la créativité du parcours. Non, voilà, on a posé en assemblée générale. La possibilité de varier le parcours et les trajets des manifestations qui sont vraiment plus que train de savate puisqu'on défile dans le centre-ville mais sans rien bloquer, donc tout le monde est content, la police comme les commerçants. Alors bon, il faut pas non plus jouer
Les âgés, il y en a des gens, ouais. Les âgés le matin.
Alors voilà, c'est ça, tout à fait. La forme d'organisation du mouvement rémois est assez inédite, elle mérite d'être soulignée, elle reflète l'envie de mobilisation l'envie d'en découdre et la mobilisation qu'il peut y avoir dans d'autres villes. Elle se déroule selon deux principes. Le premier, c'est que tous les matins à 8h30 ont lieu des rencontres et des réunions d'assemblées générales dites de ville qui servent à s'organiser, qui durent environ 1 heure à 1 heure et demie. C'est pas trop long, hein. On essaye aussi de débattre du fond, mais bon, sur le fond, tout le monde est d'accord, hein, c'est le retrait. Ensuite, lors des journées de mobilisation, il y a à l'issue des manifestations, j'allais dire des déambulations, une assemblée générale qui là est un peu plus large où tout le monde est invité à s'exprimer. Et puis les après-midi de journées de non mobilisation ont lieu des assemblées générales par secteur. Pour le moment se tient uniquement l'Assemblée Générale des Travailleurs de l'Éducation à 14h tous les jours, et puis le matin a lieu l'Assemblée Générale des Cheminots en Lutte à 10h30 à la gare. Donc ce sont des moments où on peut se voir et échanger de manière, on va dire, plus démocratique et plus large, afin que le mouvement puisse échanger et se construire. Alors malheureusement Il y a beaucoup d'envie, il y a beaucoup de débats et de discussions à l'intérieur de ces assemblées générales, de ces moments, mais il y a une difficulté à passer à l'action réelle et concrète. Alors, faut pas non plus trop tirer vers le bas. Il y a des diffusions. Enfin, ce qu'on affirme, c'est que la manifestation, la grève, le mouvement, il faut le construire. Donc, il y a des diffusions de tracts et des rencontres qui sont faites à l'intérieur de la ville. Ce matin, par exemple, on est allé environ une vingtaine devant les locaux de Pôle emploi Besanne, ce qui nous a permis vraiment de rencontrer des gens qui subissent déjà de plein fouet au quotidien, tous les jours, la barbarie macroniste qui se la prenne dans les gencives, avec en plus ces nouveaux organisations d'indemnisation du chômage, et des gens qui effectivement ont pas souvent l'habitude qu'on vienne les solliciter pour venir manifester. Donc ça donne lieu à des échanges très 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 constructifs où les interlocuteurs qu'on a sont très heureux de pouvoir se raccrocher à une manifestation, à des gens qui comprennent et qui entendent que ce mouvement, c'est pas seulement un mouvement de fonctionnaires qui seraient lésés par, on va dire, leur retraite qui chuterait, quoi. Dans un même état d'esprit, on est allé à Wilson, jour de marché le vendredi. C'est pareil, c'est une population dont la majorité des politicards en ont rien à foutre et qui était donc très heureuse d'échanger. Et je pense qu'on va avoir des surprises mardi puisqu'il y a des gens qui se sont engagés à venir. Voilà. On passe aux grandes métropoles. Un habitant de la grande métropole nantaise, est-ce qu'il est là ?
Je pense.
Salut.
Oui, salut Gérald. Très heureux de t'entendre.
Oui.
À titre personnel.
C'est parce que je suis très loin.
Tout à fait, tout à fait.
Du temps à...
Alors raconte-nous un peu ce qui se passe chez toi.
Eh bien, qu'est-ce que vous voulez ? Les particularités ou les points communs avec la situation générale ?
On commence par les points communs.
Bon, les points communs. Moi, ce que je pense, c'est que les bureaucraties syndicales ont remis un peu le grappin sur le mouvement social, quoi. Hein. Elles se sont remises au centre du jeu.
Ça, c'est important.
Et ça, c'est décisif, à mon avis. Et en fait, ce qui reste de la dynamique des gilets jaunes, et puis aussi, nous, localement, il y a quand même il y a une constante depuis la loi travail, hein. Il y a des mobilisations à répétition. Donc, ça se cherche un peu autour de cette mobilisation centrale, autour des syndicats, quoi. Il y a quand même des connexions.
D'accord. Et est-ce qu'elles sont telles, pardon Denis, je te coupe, est-ce qu'elles sont telles que vous arrivez à créer votre propre agenda ?
Alors, c'est ce qu'on essayait, quelque part. Mais pour le moment, faut reconnaître qu'on est un peu faible, quoi. C'est-à-dire qu'il y a eu des tentatives, justement, de dépasser les dates de mobilisation inter-syndicale, quoi, inter-pro, de façon à peser dans le rapport de force avec des blocages de l'économie, des blocages des flux, quoi. Et en fait, bon, pour le moment, c'est faible, quoi. Il n'y a pas une dynamique comme il y a eu avec les Gilets jaunes pendant un an. Si on se rappelle ce qui s'est passé en décembre, c'était des milliers de gens, des dizaines de milliers de gens dans les rues, quoi. Bon, là, manifestement, les troupes sont quand même encadrées par les syndicats, et en plus de ça, on est tombé dans le tempo d'une grosse manif par semaine, quoi, avec une AG interpro qui est quand même verrouillée par les délégués officiels.
Oui, vos AG donc sont verrouillés, c'est-à-dire que tu as les représentants syndicaux locaux qui verrouillent le truc.
Ouais.
D'accord.
Alors que...
Même, on a essayé de... Il y a quand même eu une petite tentative, un peu de débordement, d'envahir leur AG. Du coup, ils se sont retrouvés à 300 personnes, alors que normalement, il y avait des délégués qui devaient se retrouver. Alors, donc, ils ont dit que, bon, bien sûr, les normes de sécurité n'étaient pas respectées, donc on s'est tous retrouvés dehors.
Les normes de sécurité, on nous l'a fait aussi, une fois cette histoire.
On s'est tous retrouvés dans la cour de la maison des syndicats, à 300, et puis, bon, en fait, ça a été une litanie de délégués qui venaient de dire c'est passé le matin à leur âgé, quoi, et en disant que c'était ou bien la grève était reconduite ou pas, bien ils appelaient à tel manif, etc. Quoi. Donc c'est de ce côté-là, on peut faire un bilan quand même un peu de contrôle par les, les syndicats, quoi. Après, ça bouge un peu. Là, aujourd'hui, il y a eu l'intersyndicale du CHU, qui est quand même le très gros employeur sur Nantes, qui appelle à venir manifester en même temps que les autres corporations. Et puis après, l'après-midi, qui appelle à venir à faire un rassemblement devant le CHU, quoi, sur le parvis du CHU. Donc là, c'est un peu un début de...
De convergence.
De convergence, quoi, hein, concrète, quoi. Parce que, en fait, le CHU de Nantes, je crois qu'il est quand même dominé par la CGT, qui est quand même assez stalinienne. Et là, bon, manifestement, il y a dû y avoir une pression de la base pour qu'ils bougent et qu'ils sortent un petit peu de leur précarité.
D'accord. Et quels sont les secteurs qui sont en lutte à Nantes, principalement en pointe? Et est-ce qu'on retrouve ces secteurs-là dans la rue, ou est-ce que dans la rue, lors des journées de mobilisation, et les gens qui seraient éventuellement participants aux AG sont des gens qui ne sont pas, on va dire, cheminots ou profs, ou qui n'ont pas de moyens de faire grève et de venir comme ça?
Alors moi, ce que j'ai vu à la dernière manifestation, hein, bon, c'est un point de vue personnel. J'ai vu surtout des gros bataillons de la CGT, de tous les corps de métier, quoi.
Okay.
Bon, alors bien sûr, il y avait Faux, il y avait la FSU qui était présent, mais un petit peu l'INSA, mais c'était surtout la CGT, quoi. Et qui encadrait quand même beaucoup, quoi. C'est très syndical, hein, la dernière manif. Si je me trompe pas, c'est le jeu.
Ouais.
Et bon. Alors après, sur les chiffres, j'ai cru que c'était vraiment... C'était très massif. Moi, on m'a dit non, c'est pas si massif que ça. On avait quand même eu un défilé de 40 minutes.
Donc, à Nantes, le premier.
Ouais, à Nantes, sur le cours des 50 otages, donc c'est une avenue très large. Et donc, 40 minutes, c'est quand même beaucoup, quoi. Et donc, bon, je pensais qu'il y avait 15 000 personnes, mais on m'a dit 10 000 plutôt, mais bon. Enfin, en tout cas, c'est pas négligeable, hein. C'était fort. Après, bon... il y a les phénomènes à Nantes toujours du cortège de tête, qui existe, hein. On peut dire que les gens qui on peut définir sous le nom de Black Bloc, qui s'habillent tout en noir et puis qui essayent de balancer des trucs dans les vitrines, sur les clics, ça représente quelques centaines de personnes quand même.
Ouais. Chose qu'on retrouve pas ailleurs, à part à Paris.
Ah bon? Ouais, bah, y a une particularité qui date de... qui s'est mis en place un peu avec la lutte anti-aéroport.
Ouais.
Et puis qui s'est instauré avec la loi travail de Hollande. Ça s'est vraiment ancré dans les habitudes. Il faut bien dire aussi qu'il y a eu des contacts qui ont été pris avec la CGT, l'Union départementale CGT, qui a accepté de participer à un CAN, un collectif d'action nantais, comité d'action nantais, où on retrouvait des gens de la ZAD, de la mouvance anti-aéroport, et puis aussi des gens de Nantes, de collectifs antifascistes, etc.
Ouais,
et ça, c'est une particularité locale qui a fait que, bon, à un moment donné, ils ont essayé de faire prendre la sauce, mais bon, la réponse policière a été très sèche. Hein. Ça a été direct. Grosso modo, le message qui a été envoyé à la CGT, c'est puisque vous mélangez avec ces gens-là et que vous voulez défiler avec ces gens-là, on va vous traiter comme ces gens-là. Donc ça a été flashball direct et grenade des encerclantes.
Ouais.
Donc là, ça a carrément écrasé l'embryon de... Une action violente comme ça, ça fait quand même... Ça refroidit les gens qui ont envie de sortir du créneau syndical classique, quoi.
Ben, surtout, moi c'est ma position individuelle, hein, là, que j'exprime, mais il y a aussi une interrogation par rapport à ces pratiques et ces stratégies, quoi, qui deviennent désormais ritualisées et systématiques pour, on va dire, un bénéfice et un intérêt assez limité. Mais ça, c'est ma position personnelle. Et au niveau de la grève, hein, parce que Nantes est quand même assez bien desservie en TGV, donc il y a quand même un intérêt par rapport à un maintien et une poursuite de la grève, notamment du côté des cheminots.
Ah bah là, ça doit. Bon, j'ai pas de contact particulier, hein, avec les cheminots. Là, je crois que ça ça impacte sérieusement une ville qui, bon, bah, c'est comme Reims, hein, y a des cadres qui montent tous les jours à Paris. Et donc, là, tous ces gens-là, ils sont touchés de plein fouet, quoi. Ils ont, comme dire, les cheminots ont essayé de bloquer un dépôt de tram, parce qu'en fait, la TAN, hein, la régie des transports nantais, quoi, elle fait pas grève, quoi. Ça tourne comme d'habitude.
D'accord.
C'est vraiment c'est venir verrouillé par la direction de la TAN, quoi.
Cool.
Et donc là, ils ont essayé de faire un piqué pour empêcher un dépôt de tram de sortir, mais ça n'a pas été réalisé, quoi.
Ouais. Et qu'est-ce qu'il faudrait pour bloquer l'économie chez vous? Parce que c'est finalement ce qui va se passer. Enfin, la question qui doit se poser.
Alors, bon, déjà, je pense que c'est le... Bah, partout, pas comme partout d'ailleurs, il faudrait bloquer le périphérique.
Ouais.
Et bloquer les grosses boîtes de transport qu'il y a notamment dans l'Est, vers Carquefou, la zone industrielle de Carquefou, c'est à l'Est, sur la route de Paris, quoi. Et là, bloquer toutes ces boîtes-là qui sont indécisives, quoi, parce que, bon... autour de Nantes, dans la région nantaise, il y a quand même pas mal de gros entrepôts pour les hypermarchés, tout ça, les chaînes de distribution. Donc si on bloque ces dépôts-là et les transporteurs, bon, ça, je pense que ça arrête très vite, quoi. Après, je pense que c'est comme partout, c'est l'énergie. On l'électricité ou bloquer la raffinerie. Il y a une grosse raffinerie. Là aussi, ça impacterait sérieusement. Mais sinon, techniquement, nous, ce qu'on a fait, on s'est lancé dans un blocage de tentative de blocage du périphérique, mais pas directement, avec un gros rond-point juste sur un des deux ponts du périphérique, quoi. Et c'était le 6, vendredi 6, et un peu sur une base autonome, quoi. Et bon, ça a eu des impacts, parce que sur tout l'ouest de Nantes, ça a créé des gros bouchons, ça a drôlement ralenti le périph'. Mais on était au maximum de cette action, on était 140, quoi.
Ouais, c'est trop peu.
Hein. Ouais, c'est
pas beaucoup, hein. C'est pas beaucoup.
C'est trop peu.
Ouais. Alors, ce qui est étonnant, c'est aussi l'attitude des flics. Ils sont venus, ils ont constaté, bon, c'était plus ou moins un blocage, plus ou moins un filtrage, quoi. Ils nous ont laissé faire le truc, quoi. Alors qu'au moment à l'époque des Gilets jaunes, c'était beaucoup plus dur, quoi. Et je pense qu'ils nous auraient chassés tout de suite, quoi. Là, ils ont toléré le truc. Je ne sais pas trop pourquoi.
Peut-être qu'il y avait eu une négociation, non, entre les représentants syndicaux et la police, comme d'habitude, non?
Je crois pas, non. Pas
tu
sur
crois
cette,
pas.
Je crois pas trop sur cette.
D'accord.
Alors, j'en sais rien. Hein, je ne suis pas dans le secret des yeux, mais parce qu'en fait, il n'y avait pas beaucoup de, il n'y avait pas de drapeau syndical, il n'y avait pas trop de chasubles. Donc c'était quand même plutôt une sorte de mélange un peu gazeux là, avec des gilets jaunes, il y avait des militants syndicaux de base, il y avait XR, il y avait des étudiants, il y avait des zadistes, c'était une sorte de mélange de magma. Et ils nous ont laissé faire et après ils nous ont laissé partir. Et donc ça, bon, ils ont dû calculer que il fallait pas éventuellement en faire trop de publicité, je sais pas trop.
Peut-être, ouais.
Voilà.
Ça, c'est impossible. Hein.
Comment tu vois la suite et qu'est-ce qu'il faudrait pour que ça prenne corps, tout ça?
Bah, disons, on va voir demain si... Deloy, il a démissionné. Alors, il a désamorcé le truc. Il y a aussi une nouvelle information, moi, je l'avais pas, c'était les connexions entre Macron et BlackRock. BlackRock,
ouais.
c'est le premier groupe mondial de fonds de pension. Ils gèrent 7000 milliards. Donc,
pour
un budget annuel de la France, je crois que le budget annuel de la France, c'est 350 milliards.
C'est ça.
Donc, BlackRock gère 7000 milliards. Ils ont leur rentrée partout, hein, dans toutes les instances internationales de l'économie. Et tous les gouvernements les reçoivent avec.
Les honneurs.
Grand
quoi. Ouais.
Et BlackRock, en fait, était le directeur de BlackRock. BlackRock était en fait avait déjà repéré Macron avant qu'il soit élu, et c'était son candidat, quoi. Et
d'accord.
En fait, il vient régulièrement, le dirigeant de BlackRock vient régulièrement voir Macron, une ou deux fois par an. Et en fait, BlackRock a tout intérêt à ce que les bas de laine des Français qui dorment sur des emprunts garantis par l'État, quoi. En fait, fois balancé dans le grand bain de la finance internationale et notamment dans les qu'on appelle la finance avec les ordres d'achat qui jouent à la nanoseconde. Et en fait, c'est le modèle qui a justement qui prévaut à Wall Street, quoi.
Ouais.
Et donc, il y a cet enjeu-là, quoi. Je crois que les finances, la somme de placement des Français, ça équivaut à 13 000 milliards d'euros. Et en fait, tout ça, c'est pas dans le système de la financier à l'américaine, quoi.
Américaine, oui, voilà.
Et donc, c'est le gros enjeu de la réforme, en fait. Et ouais. C'est ce qui est, pourquoi, à mon avis, pourquoi Macron prend autant de risques de passer ça dès son premier quinquennat, quoi, et le passer un peu en force avec des méthodes un petit peu
c'est ça.
Borderline, quoi, parce que on l'a bien tous vu, hein, ils annonçaient la réforme, mais en fait, ils disaient pas ce qu'ils allaient mettre, quoi. Ils ont attendu, grosso modo, une semaine avant de
ouais. balancer. Mais là, il y a beaucoup d'enfumage. Oui. Par rapport à cette réforme en question. Ce que tu dis là, c'est bien tiré de Mille d'appartes.
Oui.
Donc il y a des auditeurs qui veulent en savoir plus par rapport à ces fonds de pension et ces rencontres entre Macron et l'un des leaders de ces fonds de pension, et ben vous pouvez vous brancher sur Mediapart.
Et oui, de toute façon, il y a des enjeux dans la structuration de l'économie française. Vous le savez, le français est radin. Et un des enjeux depuis super longtemps, c'est effectivement que Mamie crame son livret A. Parce que le français épargne. Non, mais c'est vrai, le français épargne beaucoup. Il n'a pas cette culture de l'investissement. Enfin, il n'est pas obligé, puisqu'il a tout un tas d'assurances sociales par capitalation et par généralisation. Donc, il n'y a pas besoin de développer la partie de l'assurance privée, quoi. Donc, ça, c'est vraiment un enjeu, comme l'a dit Gérald. Je ne sais pas s'il nous reste du temps.
Un petit peu, Gérald, ouais. Une question à te poser. Au niveau ouais. enseignant, alors, il se passe des choses ou pas?
Parce alors, que c'est j'ai croisé des amis enseignants qui sortaient de leur assemblée générale le 5, et ils disaient qu'il y avait à peu près la moitié de la participation, ils étaient 250 à leur âgé, et c'était la moitié de ce qui s'était réuni au mois de mai, là, quand on a commencé à lutter contre la réforme Blanquer.
Ah,
d'accord. Par contre, alors le nombre en décroissance, par contre des gens très motivés, quoi.
Ouais.
Ils disaient que c'était ils avaient vraiment envie de batailler, quoi. Alors ça peut être plus payant d'être à 250 décidé à faire des actions. Non, c'est pas plus. Je sais qu'il y a eu pas mal d'écoles qui ont fermé, mais je n'ai pas les chiffres exacts.
Est-ce que tu veux dire 250 durs, ça vaut 500 mous, c'est ça?
J'en sais rien. En tout cas, ça peut faire des actions qui peuvent être visibles et spectaculaires. Ouais. Il y a aussi, au niveau de l'éducation, moi je suis allé à une AG vendredi 6 à la fac, et c'était vraiment ramollo, quoi. Les gens avaient l'air d'être un peu désorientés. Il y avait 80 personnes, c'était très mou, quoi.
Mmh. Ouais. On est loin de ce qui se passait à la fac de Nantes il y a quelques dizaines d'années.
Oui, oui. Ou même il y a 7-8 ans.
Ouais.
Ouais. Mais bon, ça, en même temps, il y a d'autres facteurs. Il y a aussi des gens, il y a aussi des jeunes aussi qui descendent, viennent aux manifs, des jeunes de la périphérie de Nantaise qui viennent aux manifs. Alors bon, ça fait un mélange un peu. Voilà ce que je peux dire.
D'accord. Bah écoute, on te remercie bien. Hein, et puis,
bon courage.
À bientôt,
bon courage. À très bientôt. À très, très
oui,
bientôt
d'accord.
Pour continuer. Merci, Gérald.
Ben, merci à vous. Et au revoir.
Au revoir. Hein? Thank you.
Bonjour, nous sommes quelques membres de l'Assemblée de lutte du Mantois qui regroupe donc des personnes qui habitent Mantes-la-Jolie et alentour, et on va vous présenter un petit peu la situation locale de la lutte contre la réforme des retraites chez nous. Donc on peut commencer peut-être par un petit bilan de comment l'Assemblée de lutte du Mantois est née.
C'était donc à l'initiative des cheminots principalement et du personnel de l'éducation nationale qui avons lancé avec les Gilets jaunes, qui avons lancé ce collectif pour essayer de regrouper le plus largement possible avec les associations également, parce que sur Mantes on a quand même plusieurs associations qui sont actives, notamment Unis pour le climat, l'association contre les carrières du Vexin, les ciments Calcia et d'autres associations, bref, voilà. Et donc avec les syndicats, avec les syndiqués, avec les non-syndiqués, avec les travailleurs du public, du privé, regrouper le plus largement possible pour être dans l'action contre cette réforme injuste.
Donc on s'est réunis il y a à peu près un mois avant la réforme, le début de la grève du 5 décembre, et on a commencé à mettre en place des tractages pour diffuser un petit peu l'information. On s'est réunis de nombreuses fois pour essayer de faire le bilan, prendre la température dans les différents secteurs et pour voir comment ça allait bouger à partir du 5. Et le collectif ensuite, il est vraiment né à partir du 5 décembre, quoi.
Il avait quand même pris corps un petit peu avant, puisqu'on peut compter on a pu compter sur les Gilets jaunes qui ont diffusé largement des milliers de tracts sur le secteur, dans la gare, en gare de Mantes-la-Jolie, dans les supermarchés, sur les ronds-points, etc. Il y a eu une grosse diffusion massive dans les 15 jours ou 3 semaines qui ont précédé la date du 5, et ça a vraiment bougé. Le collectif a commencé à se former à ce moment-là, et depuis le 5, évidemment, c'est encore plus présent, quoi.
Puis je pense que l'AG, elle a été importante parce qu'elle a permis de préparer déjà avant le 5 décembre, d'engager la mobilisation et de permettre par exemple à ce que des cheminots viennent voir des personnels de l'éducation dans les établissements et commencent la mobilisation. Et ça, c'était... Enfin, moi, je suis enseignant et cette convergence interpro avant même la première journée de grève, elle a été décisive pour la suite du mouvement.
Et moi, je voulais dire que je suis gilet jaune et je suis aussi membre d'ATTAC qui soutient ce mouvement, et que cette assemblée de lutte a été un moyen pour le gros groupe de gilets jaunes qui perdure depuis plus d'un an et dont le camp a été brûlé, etc., de rebondir et de se réinvestir sur une lutte importante au niveau social. Et il y a eu une vraie convergence avec des syndicalistes et des non-syndicalistes, et que ça, c'est un événement, comme l'événement de la mobilisation nationale, au niveau local.
Et parce qu'on est parti également d'une dynamique avec le groupe de Gilets jaunes en juin 2019, où on avait déjà lancé une convergence avec les syndicats. Et c'est vrai que cette assemblée de lutte, ça a permis d'être un peu dans la continuité de cette première action qui a été déjà une vraie action de convergence en juin et intéressante avec donc les syndicats et les gilets de toutes les couleurs, et pas uniquement ou gilets jaunes ou syndicats, mais tous ensemble dans la lutte.
Je crois, ce qui différencie quand même ce qui se passe pour la réforme des retraites et ce qui s'est passé en juin dernier, c'est qu'en juin dernier, la convergence avait... était essentiellement le fait de personnes qui représentaient des organisations et qui se sont mises d'accord pour organiser une manifestation ensemble, et ça s'est fait en se regardant un peu en chien de faïence et sans qu'il y ait de lendemain, alors que cette fois-ci, la mayonnaise a réellement pris entre les personnes avec un objectif commun et en essayant de mettre autant que faire se peut de côté les étiquettes un peu individuelles. Ça n'a pas empêché qu'il y ait des interactions parfois difficiles avec certains syndicats locaux, mais en tout cas il y a eu quand même une grosse différence, je trouve, par rapport à la manif du 15 juin dernier à Mantes. On sent que les gens ont plus envie de lutter ensemble et de converger vers un objectif commun que ce qu'il y a pu y avoir avant les vacances.
En tout cas, tout ce qui a été raconté là sur l'historique, ça montre que avec ce mouvement, il y a quelque chose de nouveau qui se dessine, qui n'est pas que du syndicalisme, qui n'est pas que de l'action sur les ronds-points citoyennes, etc., mais la volonté d'inventer quelque chose et de faire converger les actions des uns et des autres, à savoir d'un côté la logique d'une grève générale, et de l'autre la logique de blocage, et que des deux côtés, on pourrait dire, il y a la prise de conscience que c'est ensemble qu'on pourra se mobiliser et faire gagner et obtenir le recul de ce pouvoir et du gouvernement.
En tant que cheminot, je peux dire que cette synergie, cette convergence avec l'éducation nationale a été vraiment très importante pour motiver les collègues. Bon, ils étaient motivés, mais c'est vrai que c'est un plus important. Et donc, on a mis des actions en place depuis donc le 5 décembre, notamment hier, on a bien rigolé à suivre le ministre du logement qui était en visite à Mantes-la-Jolie. Il était venu visiter les pauvres sur la dalle du Val-Fouré, parce qu'il ne connaissait pas, lui, il est un logement de fonction dans le 16e. Donc, c'est sûr que la dalle du Val-Fouré, ça ne lui parlait pas beaucoup. Et donc, il ne nous attendait pas. Il y avait 10 malheureux flics pour assurer sa sécurité. Bon, un petit peu plus, 15, alors, on va les 15. Et voilà, et donc c'était plutôt amusant, on l'a suivi un peu dans ses déplacements, et je pense que ça doit faire partie de notre stratégie, de ne pas laisser une minute de répit à ce gouvernement de tartuffes et de fantoches, hein, qui travaille uniquement pour la classe dirigeante, bien sûr.
Bah justement, c'est bien du territoire que moi je voulais parler, c'est que il y a un an, à Mantes-la-Jolie, il s'est passé quelque chose avec les jeunes du Mantois qui se sont fait interpeller, menottés, mis à genoux, et cette convergence, cette présence du peuple dans la rue qui prend de plus en plus d'ampleur dans le Mantois, elle est super importante parce que ça prouve qu'on n'a pas peur, que des luttes, il y en a, il va y en avoir, et il y en aura toujours dans le Mantois, quoi qu'on en dise, et quoi que les forces de l'ordre ou l'institution disent, les gouvernements, etc. On est toujours là.
Et ce qui compte surtout, c'est que pour la première fois, enfin moi je trouve, moi je suis une vieille militante, qu'il y a une organisation à la base et une prise en charge du mouvement à la base, une auto-organisation qui n'a vraiment jamais eu lieu, qui n'est pas cadrée par des organisations syndicales, politiques ou autres, et qu'il y a une espèce de fusion qui fait qu'il y a une spontanéité, on dit on va là, on a des idées, et ça fuse partout, et ça durera, je pense.
Ouais, et puis ça, c'est aussi la volonté de ne pas rester entre soi. C'est-à-dire que l'action, elle se fait dans les bois, dans les établissements, dans les dépôts SNCF, mais par exemple aujourd'hui, ce soir, là, à 18h, il y a eu la volonté de faire un appel auprès de la population pour une manifestation qui soit ouverte, qui permette à chacun et chacune, grévistes, non-grévistes, salariés du privé, salariés du public, retraités, jeunes, lycéens, étudiants, d'être dans la rue ensemble, dans les rues de Mantes-la-Jolie, dans les rues de notre ville, pour témoigner de cette... ce rejet total quoi, de la part de la population, de la réforme de Macron, mais au-delà en fait. Quand on discute dans les AG, quand on en parle avec les collègues, il y a certes la réforme des retraites, il y a certes la question des salaires, mais ça dépasse largement toutes ces questions-là dans un ras-le-bol généralisé qui fait que il y a plus une étincelle, et ça pourrait vraiment être une véritable déflagration. L'AG Interpro de lutte, c'est un élément de cette étincelle. Maintenant, il faut que ça se diffuse. Et voilà, en tout cas, on fait tout pour.
Et puis, pour revenir un peu sur les différentes actions qui ont eu lieu, le fait de suivre le ministre du Logement, ça a été évoqué. Il y a eu aussi trois manifestations à Mantes. Depuis le 5 décembre. Donc le 5 décembre, il y a eu une manifestation qui était assez intéressante parce que il y avait en fait deux manifestations en même temps. Il y en a une qui était appelée par la FSU et l'autre qui était appelée par l'Assemblée de lutte. Et donc il y a eu effectivement un petit couac et on a en fait décidé de rejoindre avec l'Assemblée de lutte la manifestation de la FSU, et donc on a convergé, les deux cortèges se sont rencontrés, on a pris contact, etc. Et puis ensuite on a continué la manifestation, et à la fin de la manifestation déclarée, on a décidé de continuer à avancer, et du coup le cortège a suivi la manifestation un peu plus loin que le trajet déclaré. Donc c'était assez intéressant de voir que on avait pris la rue et on avait décidé nous-mêmes de continuer sans qu'il y ait de mainmise de la FSU sur notre manif. Il y a eu une autre manif qui était appelée par la CGT le mardi et qui était un petit peu plus classique entre guillemets. Et jeudi on a fait une assemblée générale interprofessionnelle en plein air qui était aussi assez sympa parce qu'elle a regroupé pas mal de monde, en particulier les secteurs en grève, les secteurs mobilisés. Et ce qui a été sympa aussi, c'est que du coup après on est allé faire une petite action sur le pont, un pont qui est très passant entre Mantes-la-Jolie et Limay, où on a recouvert un peu les côtés du pont de banderoles avec des slogans contre la réforme des retraites. Et ensuite, on est parti sur un trajet de manifestation plus ou moins déclaré dans le centre de Mantes avec une super énergie. On sentait que les gens avaient vraiment envie d'être ensemble dans la manif et de continuer. Donc ça, c'était vraiment une belle manif. Et on espère que celle qui a eu lieu aujourd'hui, puisque l'émission est diffusée lundi, sera aussi réussie que celle qui a eu le jeudi.
Oui, je tiens à revenir quand même et à souligner ce qui a été dit déjà, c'est que déjà sur la position de l'Assemblée de lutte qui représente la position des participants, bien sûr, hein, c'est la radicalité, c'est-à-dire que c'est le rejet total de cette réforme, c'est-à-dire l'âge pivot, la valeur du point, enfin tout ça, on n'en a rien à secouer. Hein. Ce qui nous intéresse, c'est de stopper totalement cette réforme et la présence des Gilets jaunes qui témoignent aussi d'une ouverture sur d'autres sujets, c'est-à-dire le rejet global de cette politique du gouvernement de casse sociale, de destruction du monde du salariat, de subtilisation du pouvoir par les riches. On peut pas accepter ça et on est évidemment globalement sur les revendications des gilets jaunes de base, hein, c'est la justice sociale, la justice fiscale et l'écologie, et c'est une bonne chose à mon avis. Voilà, j'adhère parfaitement. Eh bien, on pourrait finir en disant tout ça. Hein.
Oui.
On lutte ensemble.
On gagne ensemble.
On lutte ensemble.
On lutte ensemble. On gagne ensemble. On lutte ensemble. On gagne ensemble. Ensemble.
Du thé.
Moi, volontiers.
Ah, volontiers, du thé.
On va continuer notre petit tour de France puisque nous avons Philippe de Saint-Nazaire au téléphone. Bonjour,
bonsoir.
Salut Philippe.
Alors, raconte-nous un petit peu sur Saint-Nazaire.
Que vous racontez sur Saint-Nazaire? Bon, déjà peut-être un peu présenté globalement. Hein. Saint-Nazaire, c'est un peu particulier. C'est la Loire Atlantique. La Loire Atlantique, c'est bipolaire avec Nantes. Et Saint-Nazaire qui est davantage ouvrière, avec une tradition d'intersyndicale assez offensive, on va dire, ou revendicative, hein, pas vraiment radicale. Localement sur Saint-Nazaire, par rapport à cette intersyndicale départementale qui se décline ici en union locale, un poids assez incontournable d'une tradition syndicale qui tourne notamment autour de l'union locale CGT pour Saint-Nazaire. Donc ça, c'est un peu pour planter le décor. Sinon, en ce qui concerne la lutte à l'heure actuelle, il y a des choses tout à fait intéressantes qui se passent depuis le 5, avec des grandes disparités par secteur. Saint-Nazaire, c'est aussi un cul-de-sac au niveau ferroviaire, donc on n'a pas de dépôt avec
beaucoup de cheminots,
ouais. Cheminotes réelles. Hein. Il faut aller à Savenay qui est à 30 bornes, hein, qui est pile poil entre Nantes et Saint-Nazaire pour la trouver. Et donc pour le mouvement cheminot, ça se passera davantage sur Nantes et sur l'est du département que chez nous. Même si, bon, à l'image de ce qui se passe un peu partout, il y a très peu de trains, que ce soit TER ou TGV, qui circulent sur le secteur. Donc cheminot, c'est pas vraiment une dynamique, même s'il y a des appels récurrents dans les assemblées interpro, assemblées intersyndicales des cheminots en disant il faut que les autres secteurs entrent en reconductible parce que nous on tiendra pas seul.
Claire.
Ce qui est certes une réalité, mais il y a une réelle difficulté à ancrer cette reconductible dans les boîtes. À l'heure actuelle, même si c'est quelque chose qui est affiché par l'intersyndicale départementale bien avant le 5 décembre, où on parlait déjà de nécessité d'une reconductible à partir du 5.
D'accord. Et alors, au niveau de l'éducation, puisque là-dessus, je crois que tu es beaucoup plus au courant au niveau
alors,
de ce
effectivement,
secteur.
Moi, je travaille dans l'éducation nationale. Hein, donc,
encore
encore, oui. Et puis, malheureusement, pour encore un bout de temps, s'ils ne m'ont pas viré avant.
C'est clair.
Bah, ce qui se passe dans l'éducation, c'est que la grève du 5 avait été préparée assez activement dans les lycées, les collèges et les écoles par des réseaux militants, entre autres parce qu'il y a une gueule de bois par rapport à ce qui s'est passé l'an dernier autour de la lutte contre les réformes Blanquer, grève du bac, réforme avec les directeurs de collège et le rattachement des écoles primaires, le directeur d'école primaire et le rattachement des écoles primaires au collège. Bon, il y a toute une sorte d'amertume du fait de n'avoir rien gagné malgré un niveau de mobilisation qui était assez conséquent l'an dernier. Donc cette réforme des retraites, même si les enseignants effectivement perdent pas mal, mais bon, je vais pas redévelopper le. C'est connu, hein. C'est pas, me semble-t-il, l'essentiel de la colère. Pour reprendre une image qui a été développée dans une AG de secteur éducation, là, sur Saint-Naz, quelqu'un disait, c'est pas la goutte d'eau qui fait déborder le vase, c'est le seau versé dans les chiottes bouchées, et soit on débouche le chiotte, soit on passe aux chiottes sèches. On est un peu dans cette atmosphère-là. Donc une certaine radicalisation dans les contenus, et en disant ce qui se joue à travers cette réforme des retraites, c'est clairement une opposition entre deux modèles de société, une société avec de la solidarité ou une société avec de l'individualisme et chacun écrase le voisin pour s'en tirer. C'est un peu c'est le dernier moment pour sauver les restes de l'État-providence, quoi. C'est un peu le contenu politique qui ressort dans les discussions, dans les tracts et dans les façons de faire. Donc on a une organisation en assemblée générale du secteur éducation, initialement sur Saint-Nazaire. Petit à petit, c'est en train de faire des petits sur les villes alentours, hein. Il y a des AG de secteur maintenant sur Guérande, des AG de secteur sur Pontchâteau, où ils font eux une AG ce soir, et on se retrouve au moment des temps forts, vu que les manifs sont à Saint-Nazaire en AG intersecteur. C'est un peu le type de structuration pour l'heure.
Ok, et d'après ce que j'ai pu lire, un truc aussi important qui s'est passé, c'est que les enseignants avait décidé de sortir dans la rue un dimanche.
Alors, il y a des cortèges assez massifs. Alors, je peux parler de ce qui se passe sur mon lycée, hein, donc qui partent des lycées avec des débrayages, des regroupements, convaincre les gens de ne pas aller au boulot quand il y a des manifs. Donc, il y a ce travail qui est fait. Et là, dernièrement, hier, effectivement, on avait décidé d'investir le marché de Saint-Nazaire, qui est un gros marché de sous-préfecture, pour y distribuer un tract éducation en expliquant pourquoi on était dans la rue, à la fois pour les retraites, pour l'école et pour les services publics. Parce que bien sûr, l'autre secteur qui est en pointe sur Saint-Nazaire, c'est l'hôpital. Hein. On a un hôpital qui est en train de crever là, du fait d'un financement par un partenariat public-privé qui sont un gouffre financier à partir du moment où l'essentiel du budget de l'hôpital passe dans le remboursement de loyers ou privés qui ont construit le bâtiment. Il y a aussi cette dimension de, je parlais de sauvegarder ce qui reste de l'État-providence, il y a aussi cette dimension de l'ensemble des services publics qui permettent un peu de solidarité entre les gens sont en train d'être foutus en l'air et on a l'exemple de la santé localement. Donc effectivement, il y a eu des actions, alors avec des aspects folkloriques, de chorales revendicatives, de quêtes pour les caisses de grève et de diffusion de tracts, et ça c'était effectivement hier.
Ouais. Et justement, les profs, les instituts, tout ça, vous allez être en vacances la semaine prochaine. Ouais. Est-ce que se pose le problème de l'après, c'est-à-dire à la rentrée, quoi?
Alors c'est au cœur du débat, parce que on est tous conscients que ce qu'il faudrait, c'est effectivement une grève dure et reconductible, notamment dans le secteur privé et l'économie, en plus de ce qui se fait dans les transports, parce que on peut être en grève dure dans notre bahut, on gêne pas grand monde à part les élèves et les familles. Donc là il y a tout un tas une culpabilisation qui joue et qui se gère. Mais donc on est convaincu que même si on pense qu'il y aura une belle démonstration de force demain localement, on pense que ça sera plus important que le 5. Vu la température ambiante, au niveau national, j'ai pas le recul, mais localement ça s'annonce comme tel. On pense que ça sera pas suffisant et qu'il va falloir se donner des perspectives pour après les vacances. Donc on y réfléchit, on en discute en AG. Là, ce qui se décide, notamment, alors sans rentrer trop dans les détails techniques, mais il y a une réforme au niveau du lycée avec le nouveau bac pour juin 2021. Ce nouveau bac, c'est les élèves de première actuellement qui en font les frais, et ces élèves de première seront en examen au mois de janvier, des examens qui s'appellent les E3C, c'est des contrôles continus en cours de formation. Il y a des velléités de boycott, de report et de sabordage de ces examens, à l'image de ce qui avait pu se faire pour le bac l'année dernière, qui semble se décider. Alors, est-ce que ça sera une perspective suffisante? Est-ce que ça sera concrétisé? Il y a des choses qui se discutent localement et qui s'articulent avec des discussions au niveau national aussi. Il y avait une coordination nationale de la chaîne des Bahuts, qui est issue des luttes contre Blanquer l'année dernière, qui se tenait à Paris samedi. Et on attend le retour de cette coordination pour savoir s'il y a quelque chose qui s'enclenche au niveau national, au moins là-dessus, pour le mois de janvier.
Pour le mois de janvier, oui, d'accord. Je crois que d'ailleurs, en France, il y a eu le phénomène des cagnottes qui se met en marche, là, pour effectivement aider ceux qui auraient des problèmes pour tenir, parce qu'effectivement, grève au conductible, ça veut
dire
qu'au niveau
financier. C'est une difficulté, hein. Il n'y a pas que des profs dans les bahuts, il n'y a pas que les profs qui sont en lutte, hein. Il y a également les personnels administratifs, tous les personnels précaires, assistants d'éducation qui sont les surveillants, les AESH qui sont les personnes qui s'occupent des élèves en situation de handicap, enfin bref, il y a tous les personnels également de plus en plus nombreux, c'est 20% maintenant des gens qui sont sans statut, vacataire, contractuel, etc. Donc tous ces gens-là, pour qui un des obstacles à la grève, contrairement à quelqu'un qui a un salaire garanti à 2500 balles par mois, c'est le fait de devoir survivre avec 1000 balles. Donc là, pour eux, c'est dur. Donc il y a toujours eu des caisses de grève en cas de fort mouvement. Là, ce qui est intéressant, c'est qu'il y a des caisses de grève, au moins sur Saint-Nazaire, ce qu'on a fait, il y a des caisses de grève qui existent par bahut, et on a mis en place une caisse de grève intersecteur qui vient en renfort des caisses de grève des bahuts pour aider les gens qui seront dans la merde lors des retraits sur salaire pour tenir le coup.
Ok, c'est super. Et est-ce que au niveau de la ville, dont tu nous parlais de cette intersyndicale qui est dynamique, certes, mais qui historiquement avait l'habitude de prendre en main le mouvement, est-ce que des participants nouveaux, des gens qui n'ont pas d'étiquette syndicale ou qui sont pas syndiqués, la population qui est mobilisée et qui est active dans la mobilisation, est-ce qu'elle est différente de celle habituelle ou pas?
Alors, au niveau global, ce qui est nouveau et relativement nouveau sur Saint-Nazaire, c'est que les AG interpro, donc organisés par l'intersyndicale, sont des AG ouvertes. Donc, n'importe qui peut y aller. Ça a donné lieu, entre autres, notamment à des heurts entre des Gilets jaunes et FO Béfou. On est
bien sûr.
Pleine gratinée de Béfou localement. Donc bon, il y avait des guerres de territoire et de reconnaissance. Nous, on fait du syndicalisme depuis 1895. Vous êtes là depuis un an et vous n'allez pas nous expliquer comment faire. Ce
c'est vrai, c'est vrai.
Des choses constructives dans le bien, débat. Bien. Donc effectivement, ça c'est assez nouveau. Hein. Moi, je me souviens pas d'avoir vu des AG intersyndicales ouvertes aux non syndiqués. Donc ça, c'est plutôt intéressant. Mais ça, c'est pas suffisant pour trouver une autonomie au niveau de personnes qui créeraient une assemblée de lutte, comme ça peut exister sur Nantes, par exemple, hein, où bah, le rapport de population et puis de tradition politique, l'existence d'un milieu étudiant, tout ça fait que le contexte est assez différent malgré tout. Après, au-delà des gilets jaunes qui ont pu être dans les AG, alors ça c'est plutôt sur le versant éducation nationale, il y a un rajeunissement, je dirais, des populations, des personnes mobilisées. Là, il y a une génération de 30-40 ans qu'on n'avait pas vu dans les luttes précédentes et qui semble commencer à se réveiller et à prendre en charge la lutte. Ça, c'est intéressant également, c'est-à-dire que les gens se contentent pas de rester chez eux les jours de grève et puis d'aller à la manif. Ils sont dans le bahut, il y a des banderoles de fête, il y a des affiches de coller, enfin il y a une réelle appropriation, il y a une conception que lutter c'est bosser, hein, c'est du travail de visibilité, de conviction, de discussion, et ça il y a, me semble-t-il, cool. Une petite génération militante en train d'émerger.
Cool. Mais tu le dis, ouais, on a l'impression qu'il manque pas grand-chose pour justement avoir la capacité d'une auto-organisation et d'une réelle, on va dire, autonomie en collaboration ou pas avec les intersyndicales, hein, mais en renforcement, en aiguillonnant justement cet intersyndical dans plusieurs témoignages qu'on a ici ou là, à part Mantes-la-Jolie, là, où visiblement il y a vraiment des choses très intéressantes. Il manque ce petit plus d'organisation pour et de je sais pas si c'est de la bonne volonté, mais pour pouvoir sortir de l'agenda intersyndical peser réellement ou construire un mouvement qui soit détaché de cet agenda-là, quoi.
Bah, je pense que si l'agenda syndical n'explose pas, c'est parce qu'il n'y a pas de réelle poussée de la base. Hein. Donc s'il n'y a pas de réelle poussée de la base pour remuer l'appareil et les verrous syndicaux, il n'y en a pas non plus pour avoir une réelle autonomie. Alors on pourrait se réunir à 30 et en se faisant plaisir en disant on est une AG autonome de lutte, mais on aurait une réalité qui serait assez pitoyable, je pense.
Et alors je sais que tu es un fin connaisseur des arcanes syndicales du monde enseignant. Qu'est-ce que dans quelle position va se retrouver la FSU ?
Alors la FSU, bon, c'est une année de congrès. La FSU appelée à la grève reconductible avant le 5 décembre localement. Comme elle est minoritaire avec Solidaire au niveau de l'intersyndicale de Loire-Atlantique, l'intersyndicale de Loire-Atlantique pour l'instant c'est CGT, FO, ouais. FSU et Solidaire. Donc FSU et Solidaire ont la portion congrue et on a l'affrontement FO, CGT qui sont un peu les mastodontes. La FSU est sur les positions les plus radicales possibles en tant que syndicaliste. Mais ce qui ne mange pas de pain dans la mesure où elle ne pèse pas grand-chose. Hein, Et après, en dernier ressort, elle s'alignera sur la CGT parce que c'est là où il y a le plus d'affinités et de proximité politique.
Ouais, d'accord. Bon, bah, écoute, bonne lutte et puis surtout bonne manif demain. Puis bon, je pense que il y a des tas de choses qui peuvent encore se passer, c'est moins qu'on puisse dire.
Oui, enfin, il y a en tout cas une perception de nécessité de se mettre des perspectives pour le mois de janvier.
C'est ça.
Chez un certain nombre de personnes. Est-ce qu'on sera capable de passer
le cap,
Noël, hein. Est-ce que demain tout va exploser parce que la CFDT et l'UNSA vont dire on rentre, ils ont arrêté l'âge pivot à 64 ans, donc on a gagné, c'est une victoire. et ça peut entraîner une défection aussi, bon, ben ça on peut pas voir, mais je pense que demain ça va être une journée importante, tant en mobilisation qu'en discussion dans les AG qu'on aura à l'issue des manifs.
C'est ça. Okay. Tout à fait. Écoute, merci Philippe.
On te remercie
bien. Chez toi, hein, vraiment.
Allez.
Salut. Allez, à bientôt.
À bientôt.
Bonne nuit chez vous.
Alors, il nous reste quelques secondes, vraiment une minute, juste pour rappeler que demain matin, eh ben, nous ne sommes pas que des voix, nous sommes aussi des journaux, que vous pourrez trouver les journaux dans la manifestation. Et puis que, exceptionnellement, pour les gens qui auraient des problèmes avec leurs mots, mais qui voudraient vraiment profiter du jour de grève pour ne rien foutre et profiter de la vie, eh ben, vous pouvez laisser vos gosses, vos bambins, à la maison des syndicats. Il y a une garderie qui s'organise à partir de 8h au matin pour l'accueil des mômes. Donc apportez vos mômes et allez faire des AG dans vos lieux de travail et après vous revenez les récupérer. Ben, vous les transformez en petits syndicalistes et en petits égrégoriens. Voilà.
Pour vous dire que ce qui vous attend, c'est ça peut être à la fois quelque chose de ça va être quelque chose de très dur, mais de très beau si vous le réussissez. La seule façon de le réussir, c'est que en fait vous êtes rentré en guerre aujourd'hui. C'est pas simplement une lutte, c'est la guerre. Ils vont essayer de vous faire croire que vous coûtez trop cher. On vous explique que si vous êtes dehors, c'est à cause du coût du travail. Quelle belle blague! Depuis quand les ouvriers coûtent de l'argent au patron?
Le problème, c'est que on a une politique qui est décalée sur ce qu'est la société réelle, quoi. Et, enfin, la société de la rue, la société du quartier, la société de la ville. Ouais, c'est sûr, j'ai fait passer des gens, mais moi, je m'en fous leur loi. Enfin, c'est pas que je m'en fous leur loi, c'est que je vais pas demander les papiers aux gens de savoir s'ils ont leurs papiers, ils n'ont pas leurs papiers. Si la loi, elle, c'est ça, ben, il faut changer les lois, puis c'est tout, quoi.
Allez, vous écoutez les Grégores chaque semaine sur l'écho des Garrigues à Montpellier, Canal Sud à Toulouse, à Local à Saint-Girons et bien évidemment Radio Primitive sur Reims où cette émission est réalisée. Vous pouvez retrouver nos émissions sur le site oclibertaire.l'autre.net et sur le blog Le Chat Noir 51.